C'est le 22 février aujourd'hui, vendredi. Je vous souhaite une belle journée. Hélène Denis qui vous accompagne jusqu'à 11h30. C'est Mathieu Tessier qui est là, bonjour, comme tous les vendredis ou presque. Oui. Bonjour Mathieu, vous allez bien?
Je vais merveilleusement bien.
Oui, il fait tellement beau dehors. Ah, on a un petit air de printemps. Oui, oui.
De la lumière comme ça, on en prendrait
Tous
les jours.
Mais ça a l'air que ça ne sera pas comme ça tout le week-end. Mais en tout cas, profitons. Non, vous n'avez pas entendu la météo?
Non, je regarde dehors pour la météo. Je,
oui,
non.
Vous êtes comme ça, vous.
Je suis de la vieille école, ça a l'air.
Ben, c'est bien, peut-être que c'est moins stressant. Mais dimanche, je voudrais pas vous stresser, là, mais quand même, vaut mieux prévenir que guérir. Pas mal de neige, moins que dans les Laurentides ou ailleurs, mais à Montréal, on parle de 5 à 10 cm, mais c'est parce qu'après, ça va être de la pluie, puis entre
moment,
les deux, de la pluie verglaçante. Donc,
on est rendu au moment de l'année où quand il neige, ça crée plus de problèmes que la beauté que ça occasionne.
Mais malgré que la neige, c'est toujours beau.
Oui.
Je disais, cette semaine, il y a un pays, je pense que c'est en Sibérie, je ne suis pas sûre à 100%, mais ils ont reçu de la neige noire.
Oui, j'ai vu
à cause de
ça.
La pollution.
Ben, remarquez
ça,
que
c'est terrible.
Un peu de temps après que la neige soit tombée, on passe de blanc à brun.
Ah oui, oui.
Et quand on passe près des dépôts de neige, souvent la neige est de cette couleur noire.
Okay. Non, ça, c'est moins...
Quand je restais près de Angrignon, il y a le gros dépôt de neige à Angrignon et c'était des montagnes de neige noire.
Ah! La neige qui est salie.
Exact.
Ah oui, c'est très, très salissant là, avec ce changement de température. Alors, le 22 février, vous avez des éphémérides, mais finalement, paraît-il qu'il y a eu une sorte de malentendu.
Imbroglio,
oui, c'est le bon mot.
Oui, en fait, j'aimerais surtout souligner l'anniversaire de Jean-Sébastien.
Oui, Jean-Sébastien La Liberté.
Ben oui, voilà.
Petit cachetier, il nous a pas dit ça hier.
Ben non, qui est pas là en plus aujourd'hui. Je
pense
qu'il voulait se sauver.
Il travaille de chez lui, puis
il
est avec les siens.
Je sais qu'il nous écoute de toute façon, parce qu'on se communique.
Bon,
et contrairement à ce qui a été annoncé hier, c'est aujourd'hui la journée mondiale du scoutisme.
OK. Est-ce que vous avez déjà été scout, vous?
Non.
Non? Est-ce que vous auriez aimé ça?
C'est une bonne question. J'ai déjà été dans les cadets.
OK,
pas les scouts, non.
Bon, parce que sinon, je vous aurais demandé votre totem.
Oh, je me suis fait appeler de toutes sortes de façons, mais ça n'avait rien, ça n'avait pas d'affaire.
Ça n'avait rien à voir
avec
le scoutisme. Ben, on salue tous les scouts à l'écoute et aussi notre ami Jean-Sébastien La Liberté, sans qui Canal M serait triste.
Tout à
parce
fait.
Qu'il est très... c'est un agréable collègue.
Et il est partout.
Et puis, en plus, c'est quelqu'un qui est extrêmement pro.
Oui.
Quelqu'un sur qui on peut compter, puis avec lequel c'est très agréable de travailler. Alors, j'en mets parce que je sais qu'il est à l'écoute. Non, mais c'est très sincère. Alors, bon anniversaire, Jean-Sébastien. Et profitez-en de cette journée. Je sais que vous allez travailler de chez vous, mais faites-vous gâter quand même.
Ben oui.
Bon, ben merci Mathieu. On continue avec maintenant les journaux. En une de la presse, une exclusivité, école sous surveillance, les caméras d'une école de Saint-Laurent portent-elles atteinte aux droits des employés? Le syndicat estime que oui, mais d'autres écoles semblent bien s'accommoder des systèmes de sécurité. Exclusif sport, des expos à garde partagées, les promoteurs envisagent sérieusement de jouer des matchs locaux à Montréal et à Tampa. La chronique de Francis Vaille, qui est responsable à la caisse, il parle de la caisse de dépôt, et art et être, dis-je bien, télévision dans la peau du monstre, série télé qui prend son envol sur tout TV Extra. Le Québec n'a pas fini d'entendre parler de Mehdi Mescar, celui qui incarne le monstre, d'après l'histoire vraie d'Ingrid Falaise. C'est un article de Marie-Ève Moras. Les employés de l'école Vanguard à Saint-Laurent se sentent épiés depuis l'installation d'une soixantaine de caméras de surveillance dans l'établissement. à tel point que leur syndicat s'adresse aux tribunaux pour faire reconnaître qu'il s'agit d'une atteinte à leurs droits fondamentaux. La direction soutient pour sa part que c'est un moyen efficace de prévenir la violence à l'école. Située à Saint-Laurent, l'école Vanguard accueille plus de 1000 élèves du primaire et du secondaire ayant des difficultés d'apprentissage graves. En mai 2017, la direction a équipé l'établissement de caméras de surveillance. Au total, 64 de ces appareils ont été installés dans les couloirs, dans la cafétéria et dans les cages d'escalier, mais aussi devant les ascenseurs et les portes d'entrée du bâtiment de 6 étages. Le syndicat des employés de l'école Vanguard, qui compte 168 membres, tente de faire infirmer en cour supérieure une décision du tribunal d'arbitrage qui a conclu en octobre dernier que l'atteinte à la vie privée des employés était minimale, notamment parce qu'il n'y a pas de caméra dans les classes, les bureaux et les toilettes. Alors, en bref, en 2013, la décision de la commission scolaire Marguerite Bourgeois d'ajouter 895 caméras dans ses écoles avait fait grand bruit. Depuis, la commission scolaire en a ajouté dans l'indifférence quasi générale. « Notre périmètre s'est agrandi », nous a répondu la porte-parole de la commission scolaire, ajoutant que l'agrandissement et la construction de nouvelles écoles avaient entraîné l'installation de caméras supplémentaires. La commission scolaire ne nous a pas précisé combien de ces caméras avaient été ajoutées en 6 ans. Toutefois, en 2013, on estimait qu'il y avait environ 35 de ces appareils dans chaque école secondaire de la commission scolaire. Ensuite, la présidente de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement s'étonne que l'installation de caméras dans une école fasse l'objet d'une action devant les tribunaux. « Je n'ai jamais vu ça au contraire. Les enseignants aiment ça, qu'on ait ça. On ne met pas des caméras partout, il n'y en a pas dans les classes. Ce sont des agents de sécurité qui y ont accès et on met des caméras où il y a beaucoup de jeunes qui passent et aux endroits où il pourrait manquer de surveillance selon l'architecture de l'école », dit Lise Mador, qui a dirigé des écoles dans la région de Sept-Îles. L'objectif derrière cette vidéosurveillance est de diminuer le vandalisme, les vols et l'intimidation, explique-t-elle. Le président du Collège des médecins du Québec plaide depuis le début de la semaine que le diagnostic ne doit pas être étendu aux infirmières praticiennes spécialisées, qu'on appelle aussi IPS, comme le souhaite Québec, notamment pour protéger le public. Or, aucune étude scientifique n'appuie cette position, reconnaît le docteur Maurice Gaudreau, qui présentera aujourd'hui à son conseil d'administration de nouvelles pratiques cliniques qui excluent tout pouvoir de diagnostic accru pour les IPS. Vice-doyenne à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal, Caroline Larue souligne que quelques études ont été menées ces dernières années sur la qualité des soins offerts par les IPS. L'une des plus pertinentes, selon elle, est une méta-analyse publiée en juillet 2018 par Cochrane et portant sur les infirmières comme substitut aux médecins en soins de santé primaire. L'étude a démontré que le résultat sur la santé des patients est similaire et que les patients sont autant, sinon même un peu plus satisfaits de leurs soins, notamment parce que les infirmières passent un peu plus de temps en consultation, dit Caroline Larue. Hôpital général de Montréal, des employés des urgences de l'Hôpital général de Montréal, le CUSUM, se disent terrorisés par des membres de groupes criminels et s'inquiète pour leur sécurité, affirme-t-il dans une pétition remise à la direction de l'hôpital le 13 février dernier. Des membres de différents corps professionnels affectés aux services d'urgence se sont regroupés parce qu'ils vivaient des situations de violence, explique Sandra Seto, présidente par intérim du syndicat local de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, qui représente notamment le personnel infirmier. Les employés du bloc opératoire au 8e étage seraient particulièrement exposés, et ce, en raison de la présence de certains visiteurs, d'après la pétition dont Montreal Gazette a fait état hier. On ne peut pas être comparé aux autres hôpitaux de la province. On vit une triple situation. On est un centre de traumatologie, On est un centre psychiatrique et on est au centre-ville, donc il y a des gangs de rue et de l'itinérance, dit en entrevue avec la presse Mme Setto. La direction de l'hôpital a répondu aux demandes des signataires en affirmant qu'un plan d'action était en voie d'être restauré. Et au sport, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le Canadien est très de bonne humeur puisque l'ailier droit, Brendan Gallagher, a connu sa première soirée de 3 buts depuis le 14 février 2012, menant le Canadien à une victoire de 5-1 contre les Flyers de Philadelphie. Bien triste histoire, au moins 70 personnes ont péri au Bangladesh dans un gigantesque incendie qui a ravagé des immeubles de Dhaka où étaient entreposés illégalement des produits chimiques, une nouvelle conséquence du non-respect des normes de sécurité dans le pays. Pour la première fois depuis 1937, année où les données météorologiques ont commencé à être compilées, Las Vegas connaît une vague de froid si importante qu'il a neigé sur la capitale mondiale du jeu. Pénurie de foin durement frappée par une pénurie de foin qui a fait doubler le prix des balles. Des producteurs québécois estiment qu'ils ont été privés d'un dédommagement de 16 millions de dollars car Ottawa refuse de revoir la méthode de calcul de leur programme d'assurance récolte de manière à refléter leurs pertes réelles. Pris à la gorge, certains éleveurs ont commencé à vendre des bêtes qu'ils n'ont plus les moyens de nourrir s'ils veulent rester rentables. Tourisme, nombre de personnes qui ont visité le Canada en 2018, le pays n'a jamais accueilli autant de touristes internationaux, 21,1 millions. Un record attribuable en majorité aux touristes américains, mais aussi à une constante hausse du nombre de voyageurs en provenance d'Asie. Parmi ces visiteurs, plus de 3,2 millions sont d'abord passés par le Québec, d'après les données de Statistique Canada. Pour la première fois depuis 2015, la croissance du nombre de touristes américains a dépassé celle des arrivées en provenance d'autres pays. Au cours de l'année dernière, 14,4 millions de touristes américains ont franchi la frontière canadienne contre 6,7 millions de visiteurs partis d'autres régions de la planète.
Je suis le poinçonneur des lilas. Le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Reader Digest. Et dans ce bouquin, y a écrit que dégasse la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, paraît qu'il y a pas de saut métier. Moi, je fais des trous dans des billets. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, toujours des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des petits trous, encore des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, pour un valide changé à opéra. Je vis au cœur de la planète, j'ai dans la tête un carnaval de confettis, j'en amène jusque dans mon lit. Et sous mon ciel de faïence, je ne vois briller que les correspondances. Parfois je rêve, je divague, je vois des vagues. Et dans la brume au bout du quai, je vois un bateau qui vient me chercher. Pour sortir de ce trou, je fais des trous, des petits trous, toujours des petits trous. Mais le bateau se taille, et je vois que je déraille. Et je reste dans mon trou à faire des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, arts et métiers directs par le Valois. J'en ai ma claque de ce cloaque. Je voudrais jouer la fille de l'air, laisser ma casquette au vestiaire. Un jour viendra, j'en suis sûr, où je pourrai m'évader dans la nature. Je partirai sur la grande route, écoute que coûte. Et si pour moi il est plus temps, je partirai les pieds devant. Je fais des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Y'a de quoi devenir dingue, de quoi prendre un flingue. Se faire un trou, un petit trou, un dernier petit trou. Un petit trou, un petit trou, un dernier petit trou. Et on me mettra dans un grand trou, et je n'entendrai plus parler de trous. Je chope des trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous.
Serge Gainsbourg, le poinçonneur des lilas.
Les petits trous, on pense au nid de poule, mais ici, ça n'a rien à voir. En une du devoir, le pape, au-delà de l'acte de contrition. Exercice inédit et attendu depuis des décennies par des victimes, le sommet de l'Église catholique sur les abus sexuels dont ont été victimes des mineurs s'est ouvert jeudi au Vatican. Donnant le ton à ce sommet, le pape François a demandé au président des conférences épiscopales du monde entier d'adopter des mesures concrètes et efficaces. Ensuite, affaire SNC-Lavalin, le greffier du conseil privé défend Trudeau. Michael Warnick a appelé Jody Wilson Rebold pour lui faire part des inquiétudes de Justin Trudeau quant à l'avenir de SNC-Lavalin. Rien d'inapproprié, dit-il. 8 millions au bout du crayon. Les architectes du Musée d'art contemporain de Montréal revoient leur plan pour amener le projet à l'intérieur du budget de 50 millions. Livre « Faut-il repenser la tolérance? Rien n'interdit de protéger nos mœurs », dit Claude Habib. Et économie, la Caisse de dépôt et placement réalise un rendement de 4,2%. Zeitgeist, le pays dans le pays, la chronique de José Blanchette, c'est sa dernière avant les vacances. Elle prend quelques semaines pour la semaine de relâche qui s'en vient. Et culture, Oscar, le palmarès de nos chroniqueurs et de nos lecteurs. Et les chroniqueurs mettent Roma comme possible gagnant du meilleur film de l'année. Le gouvernement a accusé d'agir dans la précipitation. Le gouvernement se fait reprocher de procéder trop vite avec son projet de loi sur l'immigration, au point où des groupes comme le Barreau et la CSN n'ont pas pu participer à la commission parlementaire faute de temps pour se préparer. Le Barreau du Québec a su mercredi après-midi qu'il est invité à faire une présentation à la commission parlementaire sur le projet de loi 9. Le HIC, explique sa porte-parole Martine Meilleur, c'est qu'il devait y faire une présentation dès le lendemain. Le délai était tellement bref qu'on n'a pas pu l'honorer. À la Confédération des syndicats nationaux, on a décliné l'invitation pour les mêmes raisons. Selon ce qu'a expliqué le leader du gouvernement, Simon Jolin Barrette, les deux organismes ont été invités pour combler les cases horaires laissées vacantes par le désistement de Québec International et la Ville de Québec. Or, le leader de l'opposition libérale, Sébastien Proulx, lui reproche de presser la note. Non seulement les groupes manquent de temps pour se préparer, mais les commissions parlementaires ne consultent pas suffisamment de gens, font valoir les libéraux. Aux yeux du ministre de l'Immigration, les libéraux tentent de mettre du sable dans l'engrenage. Dans le système parlementaire québécois, le gouvernement doit s'entendre avec le leader de l'opposition sur l'horaire des travaux, notamment ceux des commissions qui étudient les projets de loi. L'opposition entre M. Proulx et M. Jolin Barrette a pris une telle ampleur jeudi après la période de questions que les travaux de deux commissions parlementaires s'en sont trouvés paralysés pendant près de 2 heures. L'étude du projet de loi a finalement pu débuter à 15 heures avec le passage de l'économiste Pierre Fortin, dont les remarques allaient dans le même sens que le gouvernement à plusieurs égards. Ce qui est important, c'est l'adéquation entre les besoins réels des entreprises, de nos entreprises, et les demandes qui sont faites, a plaidé l'économiste qui voit dans le système des déclarations d'intérêt, ARIMA, un pas dans la bonne direction. La consultation doit poursuivre ses travaux mardi, mercredi et jeudi la semaine prochaine. L'Insectarium de Montréal fermera ses portes le 11 mars prochain pour permettre la réalisation d'importants travaux qui s'échelonnent sur 2 ans. Baptisé « Métamorphose », le projet de transformation permettra d'agrandir la superficie du musée de 68 %. Quel avenir pour la biosphère? Le dôme géodésique du célèbre architecte américain Buckminster Fuller, construit sur l'île Sainte-Hélène à l'occasion d'Expo 67, sera abandonné par le gouvernement fédéral à compter de décembre 2019. Le bail qui lie un de ses ministères à cette structure unique arrive à échéance. Ottawa n'a pas manifesté l'intention de le renouveler. Aucune entente n'est intervenue jusqu'ici avec la Ville de Montréal, propriétaire de cette structure emblématique. Environnement et changement climatique Canada loue l'édifice de la biosphère qui héberge le musée de l'environnement jusqu'au 31 décembre 2019, confirme ce ministère. Au-delà de cette date, c'est le vide. À la Commission sur les finances, Luc Ferrandez du comité exécutif de la Ville a souligné que le lieu nécessitait au moins 25 millions en rénovation. Mais pour y mettre quoi? Un nouveau musée, selon le directeur, l'ex-directeur du lieu, Jean Langlais, créer un nouveau musée coûte environ 350 millions. Un musée existe déjà. Ce serait une grande perte pour Montréal de le voir disparaître. Du même souffle, il explique avoir prévenu de longue date Ottawa que, le bail arrivant à échéance, il fallait considérer la revalorisation des lieux. L'architecte Philippe Lupien a déposé devant l'Office de consultation publique un projet en faveur d'un nouveau musée national de l'environnement sur la base de celui qui est toujours vivant. En entrevue au Devoir, l'architecte explique qu'il est grand temps de se réapproprier cet espace au profit des Montréalais et des touristes, espace qualifié de « bijou ». À la page éditoriale, une lettre de Pierre Lachapelle. Madame Ferrari, félicitations pour votre article sur le bruit, ou si vous préférez, sur l'absence de silence et de calme, paru Le Devoir dans Le Devoir du 18 février 2019. C'est vraiment un problème sous-estimé par les responsables de la santé publique et par les élus du peuple, quel que soit le niveau politique visé. Dans la partie intitulée « Priorités politiques », vous écrivez à propos de la Ville de Montréal et de l'administration de Mme Valérie Plante. La Ville devrait d'ailleurs mettre sur pied un observatoire du bruit dans un avenir rapproché. J'ignore ce que veut dire « avenir rapproché », mais voici ce que nous savons dans Hansik Cartierville au sujet de cet observatoire promis lors de l'élection de 2017. Et nous tenons cette information de la bouche de notre mairesse, Mme Thuillier, que nos sympathisants ont interrogé lors d'un conseil d'arrondissement le 10 septembre 2018. Il n'y a aucun calendrier de réalisation concernant un observatoire du bruit à Montréal. Mme Thuillier a bien élaboré un plan idéal, voire utopique, pour en arriver à la création d'un tel observatoire. Mais lorsqu'une citoyenne lui a demandé, en question complémentaire, quel était le calendrier de réalisation, la réponse est tombée. Un tel calendrier n'existe pas. Alors que ce soit pour promettre un pont, un parc ou un observatoire sur le bruit, s'il n'y a pas de calendrier de réalisation, on parle alors d'une chimère. C'est signé Pierre Lachapelle du comité de citoyens Les Pollués de Montréal-Trudeau. Une lettre signée à Montréal le 20 février 2019. Le cinéaste suisse Claude Goretta, réalisateur notamment du film La Dentelière avec Isabelle Huppert, est mort à Genève à l'âge de 89 ans, a déclaré jeudi son fils à l'AFP, l'agence France-Presse. Proche du réalisateur suisse Alain Tanner, Claude Goretta était malade depuis plusieurs années. Il s'est éteint mercredi après-midi à son domicile genevois entouré de sa famille, a dit Luca Goretta, joint par téléphone. Né le 23 juin 1929, à Genève, le cinéaste était aussi réalisateur à la télévision, producteur et scénariste. Il a tourné près de 40 films. Vous aviez envie d'entendre du Michel Pagliaro? Eh bien, vos désirs vont devenir réalité dans quelques secondes après les quelques publicités.
Love.
Tu te dis, Michel Pagliaro, l'espion.
Ben moi, on se demandait qu'est-ce qu'il racontait quand il dit « et tu dis ». C'est « et tu te dis ».
Et tu te dis, ouais.
Ouais.
Et voilà.
Excellent, Pagliaro.
Très bon, merci de la suggestion.
Ben, ça me fait très plaisir. Alors, en une du Journal de Montréal, « Je n'ai jamais aimé me battre. Qui dit cela? » Georges St-Pierre a annoncé sa retraite des arts martiaux mixtes hier. Le plus grand athlète québécois, c'est le titre de la chronique de Régent Tremblay en page 68. Caisse de dépôt et placement du Québec, 4,2% dans notre Badeleine. Sabia veut sauver SNC-Lavalin. Et qui est le patron du PDG d'Otera? Une chronique de Michel Girard intitulée « Une réponse franchement gênante à propos de la caisse ». 3 buts dans une grosse victoire, Gallagher s'éclate et 29 chauves-souris sèment la panique dans un CHSLD. Quatre infirmières, 25 préposés aux bénéficiaires et 29 chauves-souris. Un climat de panique régnait dans l'établissement où des employés ont dû capturer les bêtes. Un CHSLD de Sorel-Tracy a été infesté par des chauves-souris durant 5 mois l'an dernier, à un point tel que les infirmières apeurées les capturaient avec des filets en pleine nuit. Les infirmières se faisaient foncer dessus par les chauves-souris. C'était la panique. Les gens avaient peur de travailler, confie un employé bien au courant du dossier qui témoigne anonymement par peur de représailles. Au total, 29 spécimens ont été attrapés par des employés. Plusieurs ont été remis au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Aucune chauve-souris attrapée n'était porteuse de maladie. Selon la direction, les résidents n'ont pas été incommodés. Les employés du CHSLD en capturaient 2 ou 3 par jour, mais le problème est devenu plus important, raconte une source. Personne ne savait pas où elle entrait, par où elle entrait. Selon cette source, la direction a mis beaucoup de temps avant de réagir. En août dernier, la direction du CHSLD a diffusé une note de service pour informer les employés, dont les 4 infirmières et 25 préposés aux bénéficiaires en poste de jour, et les résidents. Une compagnie d'extermination a aussi été appelée. Selon la note, les chauves-souris ne devaient pas être tuées puisque l'espace en question est protégé. Lorsque les employés trouvaient un spécimen, la directive était d'isoler la bête en attendant l'arrivée des experts. À ce jour, la direction du CHSLD n'a toujours pas identifié l'endroit par lequel les chauves-souris entraient. Des inspections minutieuses et 3 nuits d'observation ont été faites. Le CI3S soupçonne qu'elles puissent vivre dans des bâtiments abandonnés à proximité des cours d'eau. Et dans un autre article, toujours signé par la même journaliste, c'est-à-dire Héloïse Archambault, on peut lire « Les intrusions de chauves-souris dans des centres d'hébergement arrivent tous les ans au Québec parce que les vieux bâtiments attirent ces animaux ». Les chauves-souris se faufilent facilement. Ce sont des lieux qui deviennent intéressants pour la maternité ou l'hibernation. C'est ce que dit Frédéric Lelièvre, biologiste au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Ce n'est pas exceptionnel, mais ce n'est pas facile de régler ce problème. Tellement mieux à Montréal, la neige cause encore plus de maux de tête aux résidents de Québec cet hiver. C'est connu, à Québec, il fait toujours plus froid, il y a toujours plus de neige qu'à Montréal. C'est Environnement Canada qui le dit. Avant lundi, Montréal avait reçu 1,81 m de neige comparativement à 2,94 m à Québec cet hiver. et ça n'ira pas en s'améliorant. Dimanche, on attend de 20 à 30 cm à Québec, comparativement des précipitations de 1 à 3 cm sur la métropole. Dans certains quartiers de Québec, des bancs de neige dépassent presque la toiture des maisons, au point où des parents s'inquiètent de la sécurité de leurs enfants, moins visibles des automobilistes dans les rues. Vous croyez que le déneigement est compliqué à Montréal? À Lévis, on déneigera plus étroitement les rues dans les prochaines semaines en raison des précipitations abondantes qui ont presque rempli les 5 dépôts à neige. Les flûtes à bec seront payées par l'école, mais le reste, point d'interrogation, le projet de loi sur les contributions financières déposé hier par le gouvernement Legault ne précise pas tous les frais scolaires devant être payés par l'école. Les parents devront attendre le dépôt d'un règlement par le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, pour connaître la liste exhaustive du matériel scolaire qui devra être facturé aux écoles. M. Roberge a néanmoins annoncé son intention d'inscrire noir sur blanc dans ce règlement la gratuité des romans, dictionnaire, grammaire, boîte de mouchoirs, flûte à bec ou écouteurs pour ordinateur. Les parents devront continuer de payer notamment pour les crayons, les gommes à effacer ou les cadenas de leurs enfants. Le ministre Roberge veut également empêcher les établissements d'exiger des frais administratifs aux parents. Il compte aussi fixer les contributions maximales pour le transport scolaire. Les sorties éducatives pourront toutefois être facturées aux parents. Le gouvernement caquiste s'engage néanmoins à offrir gratuitement deux activités scolaires par année aux élèves québécois. Le docteur Robert Winner, ou Winer, le citoyen le plus âgé au pays, est mort dimanche à l'âge de 110 ans à Montréal. Dans son avis de décès, sa famille indique qu'il est décédé paisiblement le 17 février. Dans un reportage de l'agence QMI qui lui était consacré l'automne dernier à l'occasion de son 110e anniversaire, on apprenait que M. Winer continuait d'être actif et consacrait jusqu'à 30 minutes par jour à faire du vélo stationnaire dans son appartement de Côte-Saint-Luc. Né à Montréal en 1908, Robert Winer a été élevé au sein d'une famille juive comptant 6 enfants et établi dans le Myland, aujourd'hui un district de l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal. Il a étudié à l'Université McGill, où il a décroché un diplôme de chirurgien-dentiste. Plus tard, il est retourné à McGill pour y enseigner. Alors, on va faire du vélo stationnaire en fin de semaine. L'exaspération règne chez les clients des lignes de train de banlieue Deux-Montagnes et Mascouche, alors qu'Exo a annoncé hier que des départs seront annulés ou déplacés et que les temps de trajet seront allongés dès le 25 mars. Je viens de consulter le nouvel horaire et tous les départs que nous utilisons pour respecter les horaires de garderie et de travail changeront, a déploré Gabriel Lamotte. Il s'agit d'une nouvelle tuile pour les clients d'Exo qui attendent depuis plusieurs mois les mesures d'atténuation prévues pour pallier l'arrêt de ces deux lignes de train en 2020. C'est encore une fois les travaux de construction du réseau express métropolitain qui sont responsables. Le chantier dans le tunnel du Mont-Royal s'intensifiera, forçant les trains à opérer en voie simple sur un plus long segment, ce qui entraînera ces modifications d'horaire. La Société de transport de Montréal a affirmé que le passage des autobus qui sont synchronisés avec les trains serait adapté en fonction des changements d'horaire annoncés par Exo. De la taille d'un pouce humain, l'abeille de Wallace, la plus grande du monde, n'avait pas été aperçue depuis 1981. Des chercheurs l'ont retrouvée dans la forêt tropicale d'une île en Indonésie. La femelle peut atteindre près de 4 cm de long et plus de 6 cm d'envergure, soit 4 fois plus grande que l'abeille à miel. Le grand patron de la Caisse de dépôt et placement du Québec, Michael Sabia, a confirmé hier en entrevue à RDI Économie que son contrat de 4 ans qui prend fin en 2021 ne sera pas renouvelé. En février 2017, le mandat de M. Sabia, qui dirige le bas de laine des Québécois depuis mars 2009, avait été renouvelé jusqu'au 31 mars 2021 par l'ancien gouvernement libéral. Le pape veut du concret pour lutter contre la pédophilie. Le pape François a réclamé hier des mesures concrètes et efficaces au début d'un sommet inédit au Vatican pour lutter contre les agressions sexuelles de mineurs perpétrées par des membres du clergé en réponse aux victimes qui souhaitent un électrochoc. Le peuple de Dieu nous regarde et attend de nous non pas de simples et évidentes condamnations, mais des mesures concrètes et efficaces à préconiser, a dit le souverain pontife en ouvrant cette réunion de 3 jours et demi. Il faut du concret, a-t-il martelé, s'écartant d'un texte préparé avant de demander aux 190 participants d'entendre le cri des petits qui demandent justice. Un enregistrement avec 5 témoignages poignants de victimes a été diffusé en préambule devant l'Assemblée silencieuse et émue. Un homme chilien, accusé de mensonge lorsqu'il a révélé son cas à la hiérarchie de l'Église, demande aux assassins de la foi d'éradiquer tout le cancer. Une Africaine raconte l'horreur de relations sexuelles à partir de l'adolescence avec un prêtre dont elle dépendait financièrement dans son village et qui l'a obligée à avorter à 3 reprises. L'Église, dont la crédibilité a été sévèrement entachée en 2018 par de nouveaux scandales de grande ampleur, au Chili, aux États-Unis ou encore en Allemagne, sait qu'elle doit désormais agir au risque de sombrer. La courte réunion, qui se terminera dimanche par un discours très attendu du pape, ne doit pas déboucher sur un document final. La réunion vise à réveiller les consciences dans les rangs de l'Église avec une méthode collégiale éducative.
Ça sera pas long, ça va être fini. Puis les étoiles m'épellent des mots que j'aimerais mieux ne pas connaître. Qu'on fasse semblant, qu'on se mette un bandeau sur les yeux. On lira même plus dans le ciel. On pourra plus lire sur nos lèvres. Puis si jamais ça tente personne pour nous dire quoi faire. perdu en noir et blanc.
De son plus récent album, Les Aurores Boréales, c'était Geneviève Rassette qui nous chantait Noir et Blanc.
Très jolie voix. Belle chanson. Merci pour cette découverte, Mathieu. On y va avec les textes tirés de journaux canadiens dans L'Action, un festin pour le mois de l'histoire des Noirs. Pour une troisième année consécutive, le mois de l'histoire des Noirs à London a bénéficié de l'apport du Centre communautaire régional de London, CCRL. Comme on ne change pas une recette gagnante, l'organisme est allé encore une fois de son festival culinaire africain, une activité des plus appréciées. C'est dans la salle multifonction de la United Trinity Church, la rue Dalton, que les convives se sont rassemblés le vendredi 15 février. Le centre apprend de ses expériences et il n'était pas question d'être pris au dépourvu comme ce fut le cas l'an passé, alors qu'une affluence inattendue avait contraint les organisateurs à préparer davantage de nourriture à la dernière minute. Cette fois, le nombre de convives a été limité à une centaine. Qui plus est, l'événement était encore mieux rodé qu'auparavant, les assiettes commençant à être remplies au buffet peu avant 18 heures, alors que les portes avaient officiellement été ouvertes à 17h30. Avant d'en arriver là, quelques brefs discours ont été adressés à l'assistance. Jean-Pierre Quentin, directeur général du CCRL, Carl Cadogan, président du comité coordonnateur du mois des Noirs à London, et Theresa Armstrong, députée provinciale de London Fanshawe, la circonscription dans laquelle se tenait ce souper, se sont exprimés sur la signification de ces quatre semaines de célébration et de sensibilisation. Les autres activités du mois et la nature communautaire et conviviale de cet événement ont aussi été soulignées. Après ces quelques formalités, les convives ont dégusté les mets qui leur étaient offerts et qui avaient été préparés par des dames de la communauté burundaise de London. Il s'agissait de bénévoles à qui les organisateurs de la soirée avaient fourni les ingrédients et qui, au service, ont été épaulés par des élèves de l'école secondaire Monseigneur Bruyère. Dans le franco, pour la Saint-Valentin, un petit nouveau est né dans la communauté francophone albertaine, le Comité Franco-Queer de l'Ouest. L'annonce a été faite jeudi 14 février lors d'une conférence de presse émouvante à la cité francophone d'Edmonton. Ce n'est pas une coïncidence si nous avons choisi le jour de la Saint-Valentin, qui est la fête de l'amour, pour faire cette annonce, déclare Emmett Lamache, maître de la parole de cette conférence de presse jeudi 14 février, peu avant midi. Désormais, dans la communauté francophone albertaine, il faudra officiellement compter avec la communauté 2SLGBTQIA+, à savoir lesbienne, gay, bisexuel, transgenre, bispirituel, queer, questioning, intersexe et asexuel. Ce nouvel organisme a pour but de sensibiliser pour les mieux les milieux minoritaires francophones aux réalités de la communauté 2SLGBTQ, IA+, et de cette façon aider à la création d'espaces inclusifs, sécuritaires et respectueux, précise un communiqué. Pour le moment, l'organisme servira la communauté francophone de l'Alberta. Il vise à s'étendre dans tout l'Ouest canadien, peut-on encore y lire. tous les membres de l'organisme sont bénévoles. Dans un premier temps, les revenus du comité proviendront de ventes de goodies, mais surtout d'opérations de sensibilisation dans les écoles ou les entreprises. Des demandes de subventions sont en cours, notamment auprès du ministère Patrimoine canadien, afin de pouvoir créer un poste pour développer l'organisme. Le comité franco-queer de l'Ouest est né d'un détachement de l'organisme Francophonie Jeunesse de l'Alberta, qu'il avait créé il y a quelques années sous le nom Les Alliances allosexuelles hétérosexuelles. Le comité franco-queer a souhaité devenir indépendant pour accéder à un plus grand mandat, parce que les enjeux d'ESLGBTQIA+, ne sont pas juste les enjeux des jeunes, ce sont aussi des enjeux pour les adultes. Dans le journal Le Franco, on parle d'un concours lancé l'an dernier par le Centre de la francophonie des Amériques. Le concours « Slam tes accents » donne la parole aux jeunes francophones à travers le continent. L'objectif, clamer des textes de slam et faire valoir leurs multiples accents dans des capsules vidéo du 1er février jusqu'au 31 mars du Grand Nord canadien au sud de l'Argentine. Les frontières entre francophones de tous horizons sont réduites puisque le concours est commencé. Le concours permet de souligner le dynamisme de la francophonie dans les Amériques, indique Joanne Whitom, présidente directrice générale du Centre de la francophonie. Ça sensibilise les jeunes à l'importance du parler français, à la fierté de parler français, d'appartenir à la grande famille de la francophonie, poursuit-elle. Et la famille prend bien, avec 1128 élèves ayant participé à l'édition de lancement en 2018. Ça nous encourage beaucoup. On est heureux de constater que sur les territoires du Brésil, du Guatemala, des États-Unis ou du Mexique, on puisse rejoindre les jeunes francophones et francophiles et les intéresser au pouvoir des mots, se réjouit la responsable. Et le réservoir est large quand on sait qu'environ 33 millions de francophones vivent en Amérique. Le concours profite aussi de la visibilité apportée par son porte-parole Mathieu Lippé, chanteur et slameur québécois, celui qui se décrit comme un artiste de la parole, met en avant l'activité auprès des jeunes. C'est un concours qui vise à créer des liens dans la francophonie des Amériques, à stimuler l'imaginaire à travers la poésie, résume l'artiste. On va écouter du Johnny Mitchell et on va se retrouver avec la dernière demi-heure de l'émission Beaucoup de culturel.
Fairy tale come.
and fears and feeling proud to say I love you right out loud. Dreams and schemes and circus crowds, I've looked at life that way. But now old friends are acting strange. They shake their heads, they say I've changed. Well, something's lost, but something's gained in living every day. I've looked at life from both sides now, from win and lose, and still somehow it's life's illusion.
Dans la catégorie de « Quand on a du génie, on a besoin que d'une seule voix et d'une seule guitare » pour nous donner vraiment du bonheur, 4 minutes 30 de bonheur, et ça depuis 50 ans, puisque c'est une chanson de Joni Mitchell qui date de 1969, « Both Sides Now ». Merci.
Mathieu, votre présentation m'a laissé sans voix. Oui, vraiment, c'était très, très senti, très beau. Alors, allons-y avec le prix des libraires « Mon frère et moi » publié par Yves Nadon et Jean Claverie aux éditions 2EUX, remporte le prix des libraires 2019 dans la catégorie des œuvres québécoises pour les enfants de 5 ans et moins, décerné hier à la Maison de la culture Côte-des-Neiges de Montréal. Le livre « Où la poule meurt à la fin » de François Blais et de Valérie Boivin chez les 400 coups et lauréats dans la catégorie 6 à 11 ans. Chez les adolescents, c'est « Au carrefour » de Jean-François Sénéchal chez Leméac qui a été élu par les libraires. Dans les parutions hors Québec, les gagnants sont « Le secret du rocher noir » de Joe Todd Stanton à l'École des loisirs pour les 0 à 5 ans, « Jefferson » de Jean-Claude Mourlevat et d'Antoine Ronzon chez Gallimard Jeunesse pour les 6 à 11 ans, Sirius de Stéphane Servan aux éditions du Rouergue pour les 12 à 17 ans. Aujourd'hui aura lieu à la salle Pleyel de Paris la 44e cérémonie des Césars du cinéma français présidée par Christine Scott Thomas et présentée par Cade Mérade. Le Grand Bain de Gilles Lelouch et Jusqu'à la garde de Xavier Legrand mène la course avec 10 citations chacun, suivent de près En liberté de Pierre Salvadori et Les Frères Sisters, le western que Jacques Audiard a tourné aux États-Unis, sélectionné 9 fois chacun. Au Québec, la cérémonie sera diffusée en exclusivité sur la chaîne Canal Plus International à 15h en direct et à 20h en rediffusion. Dans la section cinéma, Éric Clément parle du film Au bout des doigts de Ludovic Bernard avec Lambert Wilson, Jules Banchetrit et Christine Scott-Thomas. Voici un autre conte de fées français pour tenter de convaincre le cinéphile moyen que la diversité et l'amour de son prochain, surtout si les différents ont bien meilleur goût que l'exclusion et le racisme. Et pour rappeler que rédempteur, l'art peut permettre de trouver sa voie. Ses intentions sont bonnes, évidemment. Les images sont souvent belles, la musique est sublime, mais malheureusement, ce film sur un jeune homme, Mathieu, provenant d'un milieu modeste ayant hérité d'un don pour le piano et qui sera sauvé par la musique et le charme d'une jeune violoncelliste, issue de la bourgeoisie et bourrée de clichés. Les jeunes de banlieue sont des voleurs ou des trafiquants, les policiers sont maladroits, une prof de musique ne peut être qu'irascible. Si le scénario banal est cousu d'avance, les trois acteurs principaux, notamment Jules Banchetrit, fils de Marie Trintignant, s'en sortent plutôt bien. Mais de cette historiette romantique à la Walt Disney avec son issue tellement prévisible, on ne retiendra en fin de compte que la force des morceaux joués au piano, notamment le Divin Concerto numéro 2, opus 18, de Rachmaninoff, interprété en réalité par la pianiste Jennifer Fichette. Alors, j'ai eu la chance de voir ce film et c'est drôle parce que dans mes notes, j'avais écrit justement « Conte de fées », mais je pense que je suis beaucoup moins sévère, j'ai moins de réserve qu'Éric Clément. C'est un film convenu, oui, prévisible, reste que l'émotion nous gagne à la fin. On ne peut pas faire autrement. Et c'est à voir si vous avez justement envie d'une histoire conte de fées, d'un feel-good movie et d'entendre aussi de la grande musique et aussi pour découvrir Jules Banchetrit qui est un acteur à suivre absolument aussi beau que charismatique. Un autre film français, cette fois, c'est Marc-André Lucier qui en parle. Il accorde 3,5 étoiles, une comédie intitulée « Double vie au pluriel », Olivier Assayas avec une belle distribution, Juliette Binoche, Guillaume Canet, Vincent Macaigne. La dématérialisation des objets culturels, films, disques, livres, etc. force tous les gens impliqués dans ces milieux à se repositionner, à revoir leur modèle. Olivier Assayas, Les destinées sentimentales et Syl Maria, a pris ce thème pour point de départ afin de créer une comédie ayant pour cadre le milieu littéraire parisien. Inutile de dire que le regard est parfois souvent même oblique, mais Double vie est d'abord construit comme un thriller dans lequel s'entremêlent les vies professionnelles et intimes des protagonistes. Au centre de ce vaudeville de haute tenue se trouvent deux couples, celui que forme un éditeur, Guillaume Canet, et une actrice de séries télévisées, Juliette Binoche, et un autre qui unit un auteur en manque d'inspiration, Vincent Macaigne, à une attachée politique, Nora Hamzaoui. Une jeune spécialiste du monde numérique embauchée par la maison d'édition, Christa Terret, veut évidemment remettre tous les compteurs à zéro. On parle beaucoup dans Double vie et de façon souvent brillante, un peu comme si, après avoir enchaîné quelques films en anglais, Olivier Assayas prenait un plaisir fou à évoquer un milieu culturel qui lui est plus familier. Ses acteurs font honneur à un long métrage avant tout basé sur la qualité des dialogues. Thank you. Marianne Farley et Jérémy Comte se préparent fébrilement pour les Oscars. Arrivés à Los Angeles depuis déjà quelques jours, les cinéastes québécois Marianne Farley et Jérémy Comte ont eu un avant-goût de ce qui les attend aux Oscars dimanche soir en assistant mercredi à une soirée de pré-gala en compagnie de plusieurs membres de l'Académie. Au cours de cet événement qui a lieu chaque année pendant la semaine des Oscars au Samuel Goldwyn Theatre de Los Angeles, les 10 films nommés dans les deux catégories réservées aux courts-métrages sont présentés à quelques 1000 spectateurs, dont plusieurs membres votants de l'Académie. Marianne Farley et Jérémy Comte étaient sur place pour présenter leurs films respectifs, Marguerite et Fauve, qui sont tous les deux en lice pour l'Oscar du meilleur court-métrage. « Je suis à Los Angeles depuis une semaine, mais c'est vraiment avec cet événement mercredi soir que j'ai senti que j'embarquais dans la folie des Oscars », relate l'actrice et réalisatrice Marianne Farley, en entrevue au journal. Depuis qu'ils ont appris que leurs films respectifs étaient nommés pour le prix du meilleur court-métrage, Marianne Farley et Jérémy Comte ne cessent de recevoir des messages d'appui des gens qui se disent fiers de les voir représenter le Québec aux Oscars. « On sent vraiment une grosse vague d'amour du Québec. C'est le fun et c'est touchant d'avoir cet appui-là », indique Jérémy Comte. La 91e cérémonie des Oscars aura lieu dimanche soir à compter de 20h. Et c'est une très bonne nouvelle parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, on apprenait que cette catégorie court-métrage allait être présentée pendant une pause publicitaire et finalement l'organisation est revenue sur sa décision. Donc, si un des Québécois remporte la palme, si je peux dire l'Oscar dans ce cas-ci, eh bien, on les verra en direct à la télé.
J'ai manqué de veine, tu t'es poussé, là tu te ramènes le bout du nez. Tiens, v'là le bonheur, tout pomponné. Penses-tu qu'à cette heure, je vais t'écouter? Sacré voleur, tu m'as floué. Là, tu reviens te faire pardonner. Dans un creux de vague, l'amour zigzag, l'homme divague. T'as eu la chienne, j'ai eu la peine, maudit bonheur, t'as eu ma peau. Quel honneur, t'as pas de parole. Maudit menteur, insiste pas, je pourrais te suivre encore une fois. Tiens, v'là le bonheur, ben bon, je connais l'odeur, c'est son parfum, non. Méchant farceur, qu'est-ce qu'elle t'a dit? T'es de bonne humeur, moi je me méfie. Dans un creux de vague, l'amour zigzague,
maudit bonheur. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Si elle me cherche, je suis ici. Maudit bonheur. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Si elle me cherche, je suis ici.
Maudit bonheur de Michel Rivard. Excusez-moi ce que vous
la
avez entendu.
La bonheur vient de partir. La porte s'est fermée. C'est drôle. Alors, voilà pour cette chanson qui est toujours belle, hein, qu'on n'avait pas entendue depuis un petit bout de temps. Il nous reste quelques minutes à passer ensemble. L'agenda du week-end, il y a toutes sortes de suggestions sorties dans le Devoir, dans le Journal de Montréal, dans la presse. Agenda du week-end dans le Journal de Montréal. Montréal en lumière, jusqu'au 3 mars, Montréal s'illumine en gastronomie et en sortie. Au Complexe des Jardins, les amateurs de fromage pourront goûter les fromages d'une vingtaine de producteurs d'ici. De même, 5 producteurs de la Côte-Nord, Trésor des Bois, Poissonnerie Blanc-Sablon, Ferme Magny-Couagan, Ferme Maricole-Peumer, les Saveurs boréales vous accueilleront à la maison du festival au 305 rue Sainte-Catherine-Ouest. Aujourd'hui, de 17h à 22h, samedi et dimanche, de 14h à 22h, et dehors, on trouve la Grande Roue, pas celle du Vieux-Montréal, mais vraiment en plein centre-ville, en face de l'esplanade de la Place des Arts, la Tyrolienne et la glissade urbaine. Jusqu'au 2 mars, les Rendez-vous Québec Cinéma nous invitent à voir plus de 300 films de toutes sortes, documentaires, fictions, longs et courts-métrages, arts numériques, films étudiants, etc., présentés dans le quartier des spectacles, entre autres à la Cinémathèque québécoise et au cinéma Odéon, quartier latin. Il y a aussi des tables rondes, des 5 à 7, des rendez-vous popcorn, des leçons de cinéma. rendez-vous.quebeccinema.ca. Autre excellente suggestion sortie, Ariane Moffatt, qui a lancé l'automne dernier son 6e album en carrière, Petite main précieuse, un disque porté par un groove des années 70 et la voix très incarnée de la chanteuse qui n'a peut-être jamais chanté avec autant d'émotion. C'est José Lapointe qui écrit cela dans la presse. C'est le temps de découvrir ses nouvelles chansons sur scène et de réentendre plusieurs anciennes, espérons-le, à l'occasion de cette rentrée montréalaise qui s'annonce chaude. Ariane Moffatt sera accompagnée sur scène de Joseph Marchand, Philippe Brault et Maxime Bellavance, un trio de feu qui prendra la route du Québec au cours des prochains mois à ses côtés. Et en première partie, la nouvelle sensation, Les Louanges, au MTLUS ce soir à 20h30. Bang Bang, c'est le titre du cabaret de cirque burlesque de la compagnie Cirque Antique, présenté pour un deuxième week-end à Montréal. Un spectacle pour adultes, sexy, queer et politique, mis en scène par Lady Joséphine, avec des projections signées Francisco Cruz des Sept Doigts. Bang Bang, qui se passe dans un bordel des années 20, est mené par une distribution entièrement féminine, formée d'artistes aériennes. Les spectateurs sont invités à porter des costumes d'époque afin de bonifier leur expérience. C'est une suggestion de Jean Siag au Bain Mathieu ce soir et demain à 21h et non dans le Bain de Mathieu. À ne pas confondre! Et revenons au rendez-vous Québec Cinéma, une suggestion de Sylvia Galipeau, « Sans maman », c'est le titre d'un documentaire. « Je ne pense pas qu'on peut se préparer à la mort, à perdre quelqu'un de proche. » C'est sur cette réflexion déchirante de sincérité que débute « Sans maman », un long-métrage documentaire signé Marie-France Guerette, présenté en première québécoise dimanche dans le cadre des rendez-vous Québec Cinéma. À 41 ans, la mère de la réalisatrice recevait un diagnostic de cancer du sein. Un an plus tard, elle mourait. « Comment tu as pu affronter la mort à 42 ans? » se demande-t-elle tout au long du film alors qu'elle approche à son tour de l'âge du diagnostic fatidique. À l'époque, Marie-France n'est encore qu'une enfant. Comment on fait pour survivre à la mort de sa mère? Un film ponctué d'archives photos et vidéos familiales terriblement touchant, un peu voyeur et bourré d'amour. Le genre de film qui donne envie d'appeler sa mère et de serrer ses enfants. C'est à la Cinémathèque québécoise en présence de la réalisatrice, dimanche, 18h. James Blake, plus pop que jamais, « Sache que le soleil sera là », chante James Blake à la fin d'Assume Form, chanson qui donne son titre au quatrième album de ce chansonnier électro-nourri au dubstep. Il y en a en effet quelque chose de plus lumineux et de plus romantique, certains diront peut-être mielleux que d'ordinaire dans ce disque, alors il est en spectacle à l'Olympia le 28 février à compter de 19h30. Plus capable de l'hiver, on comprend, pour se réchauffer et oublier momentanément que le froid sévit dehors, rendez-vous à la soirée Tiki Vernal, le 27 février, cet événement organisé dans le cadre de Montréal en lumière par la Grande Dégustation en collaboration avec Alambica, crée une rencontre inusitée et ludique entre Hawaï et l'hiver québécois. Direction l'oasis tropicale de la galerie Lounge de l'Astral dès 19h pour admirer les décorations Tiki de cèdre et de pruche et déguster l'un des 18 cocktails créatifs créés par Manuel Perrier d'Alambica où le sirop de sapin remplacera la menthe et les canneberges, la grenade, groupe de surf rock et un sac rempli de cadeaux VIP par personne sont promis. Prix 50 $ offert en ligne. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Merci Mathieu Tessier à la mise en onde et au choix musical. Ici Hélène Denis qui vous dit à mercredi, c'est François Brodeur qui sera là.